Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Rediffusion du 16 août 2009. Chers amis, deuxième émission aujourd'hui en hommage à Olivier Clément, grande figure du monde orthodoxe, décédé en janvier 2009. Avec nous, Franck Damour, essayiste donc, qui a écrit un livre sur Olivier Clément, qui dirige également une revue, la revue Nunc, qui avait consacré tout un numéro à Olivier Clément en 2005. Et c'est très intéressant de lire également parce que là, il y a des témoignages de diverses personnalités sur Clément, avec des textes de Clément. Donc un condensé de quelques textes sur Clément et par lui-même. Franck Damour, les sujets d'aujourd'hui sont deux et importants. D'abord celui du repentir, qui a vraiment occupé beaucoup Clément dans sa pensée. Puis celui du dialogue. On sait que Clément fut une des personnalités les plus fortes en ce qui concerne le dialogue de l'Église orthodoxe avec les autres confessions et en particulier avec Rome, avec l'Église catholique. Donc, nous allons aujourd'hui de nouveau entendre des extraits d'émissions anciennes enregistrées avec lui. Et on va commencer donc par un extrait qui fait partie d'une émission dans le cadre de Littérature pour tous, où il répondait aux questions de Françoise Favier. Et la première question concerne le sens du mot « repentir ».
Le mot grec « métanoïa » signifie un retournement de notre saisie du réel. Alors, au lieu de saisir le réel en le recourbant autour de nous, autour de l'ego, on découvre que le réel est recourbé autour de tout autre, que tout autre existe aussi intérieurement que moi-même, et que finalement, ce n'est pas mon univers, c'est le monde de Dieu. C'est ça, le repentir. C'est une révolution copernicienne, individuelle, pourrait-on dire. Au lieu que le monde tourne autour de l'ego, le monde tourne autour de toute présence et finalement autour du mystère qui les anime, puisque Dieu est le centre où convergent les lignes, comme disait un père de l'Église.
Voilà donc le sens du repentir. Il revient sur cette question qui lui était très familière, comme on a dit tout à l'heure, dans une autre émission enregistrée toujours avec Françoise Favier dans le cadre de Littérature pour tous. Cette émission a été diffusée en 1994. Et cette fois-ci, il parle du repentir dans la problématique du péché. Les relations entre la vie et la mort, l'être et le non-être, ça veut dire le refus de la vie. Et le repentir, évidemment, est la clé qui est donnée pour retourner cette machine infernale. Alors, la première question concerne la dégradation de l'organisme et si cette question est posée à chacun de nous tous.
La question est posée à tout homme et certains ressentent le besoin du repentir et d'autres ne savent pas même ce que le mot veut dire. Et je pense que on pourrait partir d'une notion que j'ai été amené à analyser dans l'introduction à ce livre, enfin qui est un essai en soi, et cette notion qui paraît absurde aujourd'hui, et qui est la notion de la crainte de Dieu. Et j'ai essayé de l'expliquer en recourant à une certaine vision qui est celle, par exemple, de Heidegger. Je pense au premier Heidegger, non pas au second, non pas celui de la guerre qui écrivait de très jolies choses sur les sentiers qui se perdent dans la forêt noire au moment où on engouffrait les gens dans les chambres à gaz. Et là, j'avoue que je le supporte très mal, cet Heidegger de la seconde période. Mais le Heidegger de la première période, d'une certaine façon, a une pensée très profonde quand il dit que ce qui est fondamental en nous, c'est l'angoisse. Parce que nous nous sentons jetés dans un monde qui est un monde finalement scellé par la finitude, qui est un monde scellé par le néant. Et alors, cette angoisse suscite en nous une sorte d'interrogation fondamentale. C'est ça, au fond, que les anciens ascètes appelaient la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ce sentiment de passer à côté de la vérité, de passer à côté de mon être authentique. Et c'est à partir de là que nous pouvons pressentir ce qu'est le repentir. Le repentir est cette prise de distance soudain, parce que nous sommes tenaillés par une nostalgie, nous sommes tenaillés par ce que disait Rimbaud, la vraie vie est ailleurs. À ce moment-là, nous nous posons la question, si nous sommes ainsi tenaillés, est-ce qu'il n'y a pas une instance devant laquelle nous sommes responsables de notre destinée? Et c'est alors que naît justement cette crainte de passer à côté. La Bible dit souvent, qu'est-ce que le péché? Eh bien, c'est un échec. l'échec à trouver sa vérité la plus profonde. C'est comme quelqu'un qui tire à l'arc et qui rate sans cesse la cible. Et donc, à partir de ce moment-là, se déclenche cette réalité du repentir, ce retour vers la racine de notre être que nous avons méconnu, ce retour vers cette réalité profonde qui se révèle à nous comme une présence à la fois infiniment lucide et infiniment aimante. Et je crois que le repentir, alors, commence, je dirais, dans la foi, dans la découverte de cette présence. Nous sommes appelés à ce moment-là à relire notre vie dans cette extraordinaire lumière. Et en même temps, cette présence est aimante. C'est-à-dire que nous sentons que ce qui nous est donné, c'est-à-dire le fait même d'être, peut nous être redonné. Ce qui nous est donné peut nous être redonné dans le pardon. Il y a le don et il y a le pardon. Et donc la lucidité et l'amour, et ce sont, je crois, les racines du repentir. Et je pense que tout être humain a un immense besoin du repentir. Et peut-être la tragédie de notre époque, c'est qu'on a enlevé aux hommes les mots qui leur permettraient de dire cela, de dire ce qui est peut-être leur désir le plus profond. Cette possibilité de se repentir, qui devrait exister, nous le savons bien, non seulement d'individu à individu, mais peut-être aussi de groupe humain à groupe humain.
Et voilà donc sur le repentir, et maintenant on va voir comme elle répond sur la question, quelle est la voie qui conduit au repentir ?
Vous savez, le moine disait, nous essayons de pratiquer la pénitence, vous qui vivez dans le siècle, il suffirait que vous pratiquiez la patience, parce que la vie nous réserve d'étonnantes vicissitudes, et c'est dans ces situations limites, dans ces situations de déchirement, que justement nous sommes arrachés à l'oubli. Bien sûr, nous oublions, et beaucoup de ces vieux ascètes disaient que c'est le plus grand des péchés. Le plus grand des péchés, c'est l'oubli. Nous oublions que nous existons, nous oublions que l'autre existe. Nous oublions que nous avons une racine dans l'éternité, que nous ne sommes pas orphelins. C'est une chose absolument épouvantable de vivre dans l'oubli. Mais il y a des moments qui peuvent s'appeler la beauté, qui peuvent s'appeler l'amour, qui peuvent s'appeler l'horreur, qui peuvent s'appeler les confins de la mort, où véritablement l'oubli se déchire. Et alors, à ce moment-là, nous pressentons cette autre réalité. Je crois que ces situations limites sont infiniment précieuses et ce sont elles qui nous réveillent. Et je pense que notre époque a besoin d'hommes qui éveillent. Que l'homme comprenne qu'il y a une question. Que l'homme comprenne qu'il est lui-même une question. Je me souviens d'avoir rencontré Tarkovsky il y a un certain nombre d'années.
Oui.
Et il disait, mon rôle en tant que cinéaste, c'est d'amener l'homme à comprendre qu'il est une question. Et cette question, on veut sans cesse la clore, la fermer. Mais ce n'est pas possible. Je crois d'ailleurs qu'à notre époque, c'est peut-être la beauté qui a un rôle décisif pour amener l'homme à sentir qu'il est une question. Et pour ouvrir l'homme à la vérité du repentir. Non pas au sens moral, qui est un sens étroit, un sens pauvre, mais au sens du retournement du cœur.
Et voilà donc maintenant comment il lie l'idée du repentir à la liturgie, puisque la liturgie, évidemment, contient cette idée.
Tous les offices de carême, traditionnellement, sont construits sur la parabole du fils prodigue.
Oui.
C'est le fils prodigue qui quitte le père et puis qui, un jour, se retourne. Et alors, le personnage central de la parabole, c'est le père. Il guette. Et quand il voit le fils revenir, il se jette vers lui, il le prend dans ses bras. Et c'est fini, il n'est plus question de demander pardon. Le pardon est donné, c'est la surabondance. Et je crois que nous avons besoin de cette surabondance. Et que cette surabondance nous guette. À tous les moments clés de notre vie, nous sentons que le dernier mot, finalement, n'appartient pas au néant. Il appartient à la surabondance.
Voilà donc Franck Damour, comment il développe vraiment, c'est un développement qu'on a eu ici, l'idée du repentir, cette idée absolument fondamentale, ce retournement qui peut mener l'homme au salut. Vous connaissez très bien l'œuvre d'Olivier Clément, cette idée récurrente dans ses ouvrages. Alors, quelles sont les lectures qui en témoignent ?
Je vais lire un extrait, mais je voudrais juste avant rebondir sur les références qu'on a entendues dans ces propos d'Olivier Clément. Rimbaud, Tarkovsky, la liturgie. C'est derrière tout ça l'idée de beauté qui, selon lui, est sans doute le déclencheur le plus important aujourd'hui vers l'idée d'un repentir, l'idée d'un chemin de métanoïa, comme l'expliquait, de retournement complet. Et on a bien compris que ce retournement, c'est pas simplement un retournement individuel, mais c'est un retournement collectif qui permet à chacun de retrouver sa place dans la condition générale des hommes. Et en fait, à travers ça, c'est son propre parcours qu'il raconte à chaque fois. Et pourquoi ça me paraît important? C'est parce que ce qui fait la force, on l'entend très bien aujourd'hui de la parole d'Olivier Clément, c'est son style. Il avait un style de vie qui s'est exprimé dans les mots. Et les deux extraits que je vais lire, là, illustrent bien cela. Alors, le premier est tiré de ce recueil d'entretiens « Mémoire d'espérance », publié chez Desclée de Brouwer. Et donc, c'est Olivier Clément sur la fin de sa vie. Il est déjà gravement malade. Et il parle beaucoup de l'expérience de la vieillesse qu'il découvre à ce moment-là. « Tout se joue, en définitive, sur la couleur du temps. » Le temps intérieur, bien sûr. Si pour nous, la mort est une chute dans le néant, le temps prend la couleur de l'angoisse. Si elle est une ouverture de lumière, la couleur est celle de l'espérance. Le temps, ou plutôt l'instant. Pour le vieillard comme pour l'enfant, il n'y a guère de lendemain. C'est aujourd'hui que la foi peut transformer, au fond de nous, l'angoisse en espérance, la mort en résurrection. Être dans l'Église nous délivre du souci de la continuité. De toute façon, l'essentiel continuera, la communion des saints, qui parfois me traverse, ne saurait s'interrompre. Et c'est effectivement dans cette façon de dire les choses qui est à la fois simple et qui en même temps va puiser un peu aux sources de la poésie dans une langue rythmée qui nous fait partager cette expérience du repentir, de la transformation intérieure. Alors si ce repentir peut être efficace, si effectivement cette ouverture arrive, c'est parce que il y a un événement qui a eu lieu, qui est l'événement pivot de sa vie, et plus que de sa vie, d'ensemble de notre création, qui est celui de la résurrection. Alors, un texte tout à fait admirable, qui servait de préface à un recueil d'articles des années 80, toujours chez Desclée de Brouwer. Ces articles, ce recueil s'appelait « Les visionnaires ». Et ce texte s'intitule « Transfiguration dans l'abîme ». C'est en fait un long commentaire de la Passion. « Le Christ nous prend tous en lui ». Il prend en lui ce mal dont il est innocent, tous nos meurtres, tous nos suicides, et il y a tant de façons de tuer et de se tuer. Toutes nos solitudes abandonnées, notre deuil et notre agonie, notre dégoût, notre découragement. C'est de tout cela qu'il crie de soif. L'éternel embrasement d'amour du Père et du Fils dans l'esprit se déchire, comme si le Fils incarné nous préférait, se faisant d'abord totalement ontologiquement solidaire de nous. L'éternel embrasement du Père et du Fils devient la distance entre le ciel et l'enfer, et c'est au fond de celui-ci que le Fils gémit son « j'ai soif ». La croix s'enfonce dans les ténèbres, enfonce en elle le crucifié. Sur lui se jettent les puissances de la nuit, mais il s'est dépouillé, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Saint Paul, ici, que Olivier Clément cite, et c'est bien sûr la notion de kénose, qu'il ne faut pas séparer si on veut comprendre cette notion de repentir et à quel point elle peut être transfigurante dans notre vie, qu'il s'agisse d'une transfiguration de l'éros, mais aussi d'une transfiguration de toutes nos morts, de toutes nos agonies. Alors, la question, c'est comment ce repentir intervient? Olivier Clément évoquait des crises qui peuvent nous saisir. Il évoquait aussi souvent les interrogations qui surviennent face à un visage, à l'inexpliqué de l'amour, face à la mort. Et puis, il y a le saisissement devant la beauté. Et ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour notre temps.
Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à un autre sujet qui l'a occupé beaucoup. Il a beaucoup écrit. Il a été vraiment un témoin de la difficulté, parfois, des relations entre l'Église orthodoxe et les autres confessions. Et il a servi, lui, voilà, le mot passeur revient souvent dans les bouches lorsqu'on parle de lui et de ses relations donc avec Rome aussi, puisqu'il a servi un tout petit peu de lien. Il y a des livres aussi qui en témoignent, par exemple « Rome autrement », c'est tout un ouvrage qui est consacré à la question. Nous allons maintenant revenir aux extraits enregistrés avec lui lors de notre émission diffusée au mois de juin 2004, c'est donc Orthodoxie. Olivier Clément est vraiment malade, affaibli, donc le document sonore est assez faible. Mais je crois que la qualité de ce qu'on va entendre justifie parfaitement cette diffusion. Donc maintenant, dialogue dans l'Église et dialogue avec les autres. Et est-ce que l'Église doit dialoguer avec les autres?
L'Église doit dialoguer avec tout le monde. Elle doit dialoguer avec les savants. Elle doit essayer de dialoguer aussi avec les autres religions. Ça me paraît fondamental. Quand on dit dialogue, il ne s'agit nullement d'une sorte de capitulation. Non, il faut être soi-même et être pleinement soi-même pour pouvoir dialoguer. Mais être pleinement soi-même, c'est essayer de vivre cette réalité de l'amour du prochain que nous enseignent le Christ et l'Évangile.
Et voilà donc maintenant, il continue son développement sur cette question et il répond à la question, est-ce que le dialogue sert vraiment à quelque chose et qu'est-ce qu'on peut attendre de lui ?
Il établit des réseaux d'amitié. Ces réseaux sont fondamentaux dans le monde comme il va, où le problème va se poser bientôt pour nous, la relation du christianisme et de l'islam, la relation du christianisme et de l'Inde, tout cela, du christianisme et du bouddhisme. On ne peut plus éviter ces questions. Et on doit le faire par une réflexion en profondeur, je crois. Alors qu'il y ait des choses irréductibles, pourquoi serait-elle irréductible? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir profondément à ces problèmes fondamentaux et petit à petit, peut-être, des convergences nous apparaîtront, simplement, n'est-ce pas? Et dès maintenant, nous avons des tâches fondamentales à accomplir pour sauver la vie de la Terre, pour sauver l'existence même de l'humanité. Toutes ces tâches, on va les accomplir ensemble. Et c'est cet ensemble qui permettra en même temps de réfléchir sur les difficultés que nous appelons dogmatiques.
Voilà donc un témoignage très émouvant. Nous allons maintenant compléter la présentation de sa pensée sur la question par des lectures. Franck Damour, où peut-on puiser pour lire la pensée de Clément sur cette question?
Je crois qu'il faut d'abord partir de ce qu'était l'Église pour lui. Et là, pour cela, il y a un ouvrage qui est sans doute un de ses chefs-d'œuvre, peut-être, c'est peut-être un terme pas trop fort, parce que c'est une admirable synthèse sur la pensée patristique qui s'appelle « Source », qui est un florilège, on va dire, la substance hein, de la pensée patristique, avec des commentaires d'Olivier Clément qui sont tout à fait admirables. Et il y a un de ses commentaires qui décrit ce qu'est l'Église. Je vais le lire. Il n'y a pas un brin d'herbe qui ne pousse dans l'Église, pas une constellation qui ne gravite en elle. Toute quête de vérité, de justice et de beauté se fait en elle. Même si les prophètes et les grands créateurs de vie ont été parfois persécutés par l'institution ecclésiastique. Chaque parcelle de méditation, de sagesse, de célébration est recueillie en elle. Il y a chez Olivier Clément un réalisme mystique ou une mystique très réaliste. Et l'Église, pour lui, souvent, il disait qu'on en connaît le cœur, mais on n'en connaît pas les limites. Et ce n'est pas à nous d'en définir ces limites. Et véritablement, ça, si on n'a pas ça à l'esprit, on ne peut pas comprendre ce qu'a été l'œcuménisme. Il s'est mis au service du dialogue entre les églises, il a servi des patriarches, il a servi des papes aussi. Mais tout ce travail-là, un peu institutionnel, était, on va dire, un petit peu l'écume de la vague de fond qui le portait dans lequel il s'inscrivait. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, la question œcuménique du dialogue entre les chrétiens, entre les chrétiens d'Orient et d'Occident surtout, n'a jamais été coupé de la question du dialogue avec les autres religions. Hein. Olivier Clément y a consacré du temps, avec l'islam il a consacré un ouvrage avec Mohamed Talbi, Un respect têtu, qui est tout à fait admirable. Il a écrit de belles pages aussi sur la question du bouddhisme contemporain. Ici il a pu écrire sur tout cela, c'est parce que lui-même a connu au cours dans les années 40, dans les années 50, il a traversé ces questions, il a aussi fréquenté un peu ces interrogations. Certes, sur la fin de sa vie, Olivier Clément a pu parfois sembler un peu, le mot n'est pas amer, mais un peu déçu, mais ça n'a pas duré très longtemps par rapport à la crise de l'œcuménisme institutionnel. Au contraire, c'est vrai que souvent, beaucoup de personnes se disent finalement, tous ces accords, ces rencontres, au sommet, à quoi bon ? Qu'est-ce que cela change ensuite? Et comme dans l'extrait qu'on a entendu, il dit ce qui reste, c'est l'amitié. Et là, tout de suite, dès qu'il abordait ce sujet, il avait des centaines d'exemples à donner de cette transmission entre les différents pôles de l'Église, les deux poumons de l'Église, hein, comme pour reprendre l'expression de Jean-Paul II. Alors, justement, avec Rome, il a essayé de tisser ce lien. Il avait une sorte de... Il a rencontré Jean-Paul II. Le terme d'amitié est peut-être adapté, je ne sais pas. En tout cas, il a répondu à son appel d'écrire sur la papauté. Hein, Jean-Paul II avait demandé aux autres chrétiens d'écrire sur la papauté. Il a fait l'ouvrage dont vous parliez tout à l'heure, qui s'appelle « Rome autrement », qui prend à bras-le-corps un dossier compliqué. Et de façon tout à fait révélateur, il conclut cet ouvrage par avec un post-scriptum où il essaye de proposer un petit peu des perspectives pour les chrétiens dans l'avenir. Voilà, qu'est-ce que les chrétiens doivent faire dans le monde, puisque finalement, si le communisme institutionnel est en crise, là où ils vont se retrouver, là où ils vont véritablement avancer, c'est dans l'action, la transformation et la transfiguration de ce monde. Je veux juste lire un extrait de ce post-scriptum. Donc, l'esprit donnera toute sa portée. Dans le nouveau contexte de l'histoire, la triple dignité du chrétien comme roi, prophète et guerrier. Pardon, roi, prêtre et prophète, excusez-moi. Roi, donc à la fois guerrier de vie et pacificateur de l'existence. Roi par la maîtrise et le rayonnement. Je pense à ces statues où le Bouddha, l'éveillé, d'une main repousse et de l'autre accueille. Mais il n'est pas de roi sans bouffon. Dans cette royauté tout intérieure, il y aura de la folie qui relativise et déconcerte. Au sein de la culture de ce monde, les béatitudes définiront une contre-culture, celle d'un monde à l'envers. Prêtre du monde, comme le savent depuis si longtemps les grands spirituels juifs. Pour lui, le monde entier est une église. Moine, non pour créer une société de purs, mais comme exemple et levain au cœur même de l'impure société. Laïc, qui n'ignore pas un monachisme intériorisé. Savant, d'une science qui ne réduit pas mais respecte. Artiste, qui parfois explore les abîmes. Parfois aussi célèbre la flamme des choses et l'icône des visages. Prophète, il, le chrétien toujours, il annonce, anticipe déjà le royaume où Dieu se manifestera tout en tous. Idoloclaste, ouvreur de route, au-delà de Freud, au-delà de Nietzsche, parce qu'il a su recueillir chez eux ce qu'il y avait de meilleur. Le christianisme de demain, plus que jamais, s'inscrira entre le divino-humanisme et le martyr. Voilà où était pour lui, dans l'avenir et dans le présent, les enjeux et la réalité de l'œcuménisme tel qu'il doit se vivre. Alors ce texte est Rome autrement, vous pouvez le trouver aux éditions des Klebrouwer.
Nous ne pouvons pas donner une biographie complète d'Olivier Clément, ce que vous faites vous-même dans votre livre évidemment, parce que ce serait trop long. Vous avez conseillé Sources, vous avez conseillé Mémoire d'espérance, et puis ceux qui aiment ces lectures, évidemment, iront plus loin. Ainsi prendra fin donc cet hommage rendu à Olivier Clément. Au cours de ces deux émissions, on a entendu des extraits de Littérature pour tous, émission de Françoise Favier, diffusée en 93 et en 94, puis extrait d'Orthodoxie de mois de juin 2004 avec Olivier Clément. Franck Damour, je vous remercie beaucoup.
Merci.
Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostadis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud et pour la rediffusion, Anne Pérez et Olivier Dupré. Vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Et voici maintenant le service protestant.